Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur tous les dimanches sur Radio Campus. Au sommaire de cette émission, nous avons rendez-vous avec notre ami Guy Pilarczyk pour l'essentiel de l'actualité de la moto tout-terrain. Guy, bonjour.
Bonjour Lamiche, bonjour à notre technicien musical.
Adoré, ouais, tu vas dire.
Adoré d'ailleurs.
Hein. Allez, ça va, tu vas bien toi.
Oui, alors aujourd'hui, c'est la première épreuve du championnat de France des courses sur sable qui se déroule à Berck-Plage. Et ce calendrier comprend 6 épreuves. Il y aura Longplace, c'est près de Dunkerque, Saint-Léger et de Blason. C'est dans l'Ouest, Graillard-l'Hôpital également, Osgore et pour en terminer avec le Touquet. Ensuite, nous allons avoir, non pas dans les studios, mais au téléphone, Valentin Giraud. Valentin Giraud, et, c'est un pilote qui fait du sidecar cross. C'est une épreuve, c'est une discipline autant spectaculaire
que physique.
Que physique, mais inconnue, presque inconnue des médias, sauf la presse spécialisée et Kikaku qui en parle. Nous allons l'avoir au téléphone et nous aurons au téléphone aussi Thierry Materne qui a organisé à Namur un cross classique. Je rappelle que Namur, ça fait déjà 60 ans qu'il dispute des championnats du monde de motocross. C'est le Monaco du motocross parce que ça se déroule
en ville. Courant, tu vois, j'ai un peu des lacunes, tu vois, en tout terrain. Tu nous apprends à chaque fois, à chaque émission, des choses qu'on découvre.
Et voilà. Et puis on terminera aussi avec les championnats du monde MX1, MX2, MX3, où ce championnat vient de se terminer. Voilà pour. C'est déjà bien rempli. Hein.
Voilà, et notre invité en deuxième partie d'émission, nous avons rendez-vous avec Christophe Marquis. L'actualité de la moto tout-terrain aujourd'hui avec Guy Pilarczyk.
Alors aujourd'hui, nous allons avoir, on va parler de sidecar cross. Sidecar cross est une discipline ô combien spectaculaire, mais pas très connue au niveau des médias, sauf les médias
spécialisés.
Alors nous avons, pas dans les studios, mais pas loin de Poitiers, Valentin Giraud. Valentin, bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà. Donc, Valentin va nous parler un peu de sa discipline. Alors, je vais un peu citer son palmarès. Alors, tu me diras si je me trompe. Tu as été vice-champion de France en 2010, champion de France 2011-2012 et cinquième cette année.
Cinquième cette année, oui, pour le championnat de France, c'est ça.
À cause de blessures.
Voilà, en fait, j'ai raté les trois dernières épreuves parce que je me suis blessé à l'épaule. Donc, nous étions en tête du championnat, mais à cause de cette blessure, on a perdu toute chance de titre.
Et le titre revient à qui déjà?
Le titre de champion de France revient à un Belge, Hendrix. Qui court avec nous au championnat de France depuis quelques années maintenant.
Oui, parce que il est affilié à un club français, alors pour pouvoir rouler en championnat de France.
Voilà, il a une licence française et puis voilà, ça fait plusieurs années qu'il court en championnat de France, donc maintenant il compte de par son ancienneté, il compte pour le classement général.
D'accord. Alors, du championnat de France, on va partir sur le championnat du monde. Tu as été classé 38e en 2010, 13e en 2011, 6e en 2012 et tu gagnes une manche en Allemagne. Et cette année, pendant un moment, tu étais quand même deuxième du classement provisoire, mais tu termines 13e au classement général à cause toujours de cette blessure. Je rappelle que au premier Grand Prix, voilà, tu fais 2 et 3 au premier Grand Prix du championnat du monde de sidecar cross. En Ukraine, tu gagnes une manche et tu fais 4e dans la seconde. En Belgique, chez les Belges, c'est-à-dire en pays qui connaissent vraiment le sidecar, et puis la Hollande qui est pas loin, tu fais 1er et 3e. Une bonne saison quand même en championnat du monde.
C'est sûr qu'on avait fait un super début de saison cette année. On était dans nos objectifs puisque les objectifs étaient de faire un podium final. Donc là, on a fait la moitié du championnat en conservant notre deuxième place de la première course jusqu'à la moitié du championnat. Donc c'était très bien avec donc deux victoires de manche et des podiums à chaque fois quasiment. Donc c'est sûr que la saison était très bien partie, mais bon, elle s'est malheureusement arrêtée suite à cette blessure.
D'accord, parce que sur une vidéo sur ton blog, j'ai vu le podium en Ukraine. J'ai regardé Ben Adriansen et Etienne Bax, ils faisaient un peu la tête qu'un Français gagne, non?
C'est sûr que... depuis l'époque de Mécène Morgan dans les années 90,
voilà, ouais, justement.
Les pilotes belges, hollandais, tout ça, ont pas eu l'habitude de voir des pilotes français leur voler un peu les places sur le podium. Et c'est vrai que cette année, on est quasiment monté sur le podium à chaque Grand Prix, donc ça devait les faire chier un petit peu, ouais.
Mais néanmoins, il y a une bonne ambiance quand même avec les pilotes belges et hollandais ou pas? Ou alors de loin
Non, l'ambiance générale dans le paddock, elle est très bonne. Tout le monde s'entend bien. Après, c'est sûr que quand on est derrière la grille de départ, c'est chacun pour soi et tout le monde veut battre les autres. Donc, quand c'est la course, c'est la course. Mais après, en dehors, ça se passe très bien.
Un petit mot alors maintenant sur l'équipage, parce que ton passager, le singe, Nicolas Musset, c'est ton cousin, je crois, non?
Ouais, c'est ça, c'est mon cousin, ouais.
Et ça fait depuis le début que tu as commencé le sidecar cross, tu as toujours le même passager.
Voilà, ça fait 4 ans que je fais des sidecars et on a commencé ensemble avec Nicolas et voilà, ça fait 4 ans qu'on roule ensemble.
Et donc, tu n'es pas comme Daniel Williams, le Hollandais qui casse du singe à chaque saison, à peu près.
Non, je pense pas du tout avoir le même pilotage que lui. Lui, il a vraiment un pilotage très agressif, tout en force. Et c'est vrai qu'il, qu'il passe pas mal de passagers dans la saison. On va dire que voilà, il y a beaucoup de passagers qui se blessent. Mais bon, moi, c'est pas trop le même style de pilotage. Je suis quand même plus coulé que lui. Et bon, je pense que à part cette chute cette année, on s'est jamais trop fait mal depuis 4 ans.
D'accord. Oui, parce que Daniel a une conduite assez agressive. Hein, c'est l'école hollandaise. Il y a quand même 9 titres. Il n'a pas réussi à avoir son 10e titre. Cette année, il roulait quand même. Hein.
Non, il l'a eu l'année dernière. Il a 10 titres. Hein.
Mais il est quand même classé. Enfin, il a fait peut-être les premières épreuves. J'ai vu ça dans le classement, non?
Ben, cette année, oui, il est parti. Ben, le premier Grand Prix, il a chuté, il s'est blessé. Et après, il est revenu donc au deuxième Grand Prix un peu affaibli. Et ça, on va dire que ça n'a pas très très bien marché pour lui. Après, il est retombé, il s'est refait mal à l'épaule et il a dû se faire opérer aussi de l'épaule en milieu de saison.
Ok. Un petit mot alors maintenant sur le Side hein, qui est de fabrication hollandaise, c'est bien ça?
Alors, les châssis, c'est fabriqué, on va dire, principalement en Hollande et en Belgique. Voilà, donc c'est des sites car, c'est un petit peu artisanal, on va dire, c'est fabrication maison, donc le châssis est fabriqué par une personne, après on met les suspensions d'un autre fabricant, on met le moteur qu'on veut dessus et on habille la machine avec les carénages qu'on souhaite mettre.
Et toi, tu roules avec un moteur KTM, c'est bien ça?
Voilà, enfin, donc moi je roule avec un moteur KTM donc qui vient d'une moto, donc après qui est amélioré en cylindrée parce que bon, la machine est plus lourde, on est deux dessus donc il faut plus de puissance qu'une moto, ça c'est clair. Et après donc je roule avec des châssis WHT qui sont fabriqués en Hollande par Wimones, donc qui nous suit depuis maintenant 3 ans et qui fait du très bon travail pour nous sur ces châssis.
Hormis le moteur KTM, bon, il y a aussi les moteurs Zabel. Hein, enfin, ils sont pas gratuits parce que je regardais les prix. Quand même, un moteur, ça vaut quand même 1 500 €, hein, c'est ça?
Oh non, un moteur, ça vaut 5 000 €. Moteur, ça vaut 5 000 €.
Alors, c'est d'occasion, alors.
Bah, Guy, t'étais pas là, t'es un peu. Tu manques 1 000 €, là.
Mais le moteur Zabel, bon, c'est un moteur de temps, hein, mais bon. Sur comment que c'est. KTM et Zabel se partagent les plateaux, non?
Voilà, on retrouve sur le championnat, c'est les deux principales marques hein, qu'on va retrouver, donc les moteurs Zabel, qui sont donc des moteurs de temps, hein, 700 cm3, et après on va retrouver les moteurs KTM, donc là qui sont des moteurs 4 temps.
Je regardais le prix d'un sidecar, ça va jusqu'à 12 000 €, même plus peut-être, non?
Alors, bon, bien sûr, il y en a à tous les prix, hein, mais pour... Un bon sidecar de compétition neuf, tout préparé, faut plutôt compter 20 000 à 25 000.
Ah oui, quand même.
Alors Valentin, comment on fait pour trouver le budget? Parce que c'est pas une discipline très médiatique.
Non, c'est un peu le point faible de cette discipline, c'est qu'elle manque un peu de médiatisation. C'est vrai que c'est ce qui pêche un petit peu, mais quand on voit cette année l'influence du public qu'il y a sur les courses, c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des belles courses et des belles bagarres entre les pilotes. Donc ouais, c'est dommage qu'elle soit pas plus médiatisée. Après, c'est sûr que c'est ce qui pêche un petit peu pour rechercher des sponsors pour la saison. Donc voilà, on essaye de démarcher des sponsors pour pouvoir être au mieux sur toute la saison, mais c'est pas spécialement évident.
Ton travail, c'est tu fais quoi dans la vie?
Alors moi, je travaille, je suis animateur. Dans une maison de retraite.
Alors ça doit donc le week-end, ça doit un peu te changer quand même un peu.
C'est ça, bon, ça fait pas très longtemps que je travaille. Que je travaille dans ce domaine-là, mais bon. Ouais.
Et les passagers, tu peux pas les prendre dans cette maison-là. Hein.
Oui, parce que cette discipline, ça a quand même réputation de consommer du passager, quand même. Hein.
C'est ça, un petit peu.
Hein, parce que le passager, lui, alors, moi, j'ai vu des vidéos, hein, c'est incroyable, un peu, comment ça passe dans les virages, dans les sauts aussi, hein.
Et ici, dans pas très longtemps, à Condé-sur-Escaut, il y a un club qui veut organiser un championnat du monde, donc, les auditeurs nordistes pourront te voir. Et les crosses les plus près, c'est Plomion et Blargy qui sont plus près. Et nous, on est à la frontière belge. On peut voir du sidecar cross en longueur d'année. Écoute, Valentin, on te souhaite beaucoup de chance pour la saison 2014. Et puis, on aura l'occasion de se revoir et de s'écouter à la radio.
Eh bien, ça marche.
Ok, bon repos. Dimanche. Salut.
You whine and moan all night and day. You're too good to come out and play. Get off your high horse, honey. Get off your high horse. I got a little money, have a little fun with me.
Spécial moto tout terrain aujourd'hui avec Guy Pilarczyk.
Alors après le sidecar cross, nous partons en Belgique à Namur exactement. Donc dans chaque pays organisateur de motocross, chaque pays possède un circuit mythique. Farle-Castell en Angleterre, Saint-Tonis aux Pays-Bas, Lagepi en France et Namur en Belgique. Et à Namurois, Thierry Materne, un passionné de motocross, vient de faire revivre à travers Namur Légende une part de l'histoire du circuit. Thierry, bonjour.
Bonjour Guy.
Salut. Voilà, tu avais organisé ça au mois d'août. Alors au mois d'août, la radio, on était en vacances, on n'a pas pu en parler pendant cette période. Est-ce que tu peux nous dresser un premier bilan de ce Namur Légende?
Bien oui, tout à fait, je peux en dresser un bilan qui est largement positif parce que Donc nous avons désiré donc faire revenir la moto sur ce lieu mythique, comme tu viens de le signaler, qui est la citadelle de Namur. Et on a voulu amener les motos par le biais des motos en fête, quoi, de les ramener sur la citadelle, puisque la FIM, la Fédération Internationale, ne permet plus l'organisation de Grand Prix sur le site, quoi. Et donc l'épreuve s'est déroulée donc le 15 août, a été une pleine réussite pour nous, puisque nous avons comptabilisé à peu près 1300 spectateurs. On a eu des champions du monde, Gramnos, André Malherbe, on a eu près de 150 pilotes qui se sont inscrits. Donc, et 26 marques représentées, quoi, qui s'échelonnaient de 1954 à 1983. Donc, je pense qu'on peut qu'être satisfait de cette première édition.
Mais bon, il y avait quand même quelques pilotes de Grand Prix. Certains n'ont même pas pris le départ. Je prends l'exemple de Graham Noyce qui, lui, dégustait des bières autour du circuit, le droulait. Parce que.
Oui, c'est clair que Gravenos, ben oui, voilà, il était présent, il a amené des super machines, mais il n'a pas roulé, quoi. Il a préféré profiter du site et peut-être se remémorer certains souvenirs merveilleux pour lui, quoi, puisque il a fêté son titre à la citadelle de Namur.
Voilà. Quoi. Et aussi, une présence remarquée de André Malherbe, Dédé, qui était là. Faut pas oublier que Malherbe s'est blessé assez sérieusement sur le Dakar et il est venu quand même te saluer, Thierry.
Oui, tout à fait. Ben, j'ai une bonne relation avec André ainsi que avec comment son comparse. Je ne retourne plus. Laquais.
Jean-Claude, ouais.
Jean-Claude, qui était présent aussi, et André m'a fait l'honneur de venir à la fois par sa présence, et puis il a également amené trois machines d'exposition, donc trois machines d'usine, deux Honda, la dernière avec laquelle il a roulé, et puis celle, la première avec laquelle il était champion du monde, et puis la KTM, puisqu'il a roulé sur KTM avant de rouler sur Honda pour s'illustrer avant d'avoir ses titres de champion du monde en face en CC, quoi.
Voilà.
Donc André, oui, ça a été formidable, quoi, parce que il a fait des commentaires du Grand Prix deux, trois jours après. Et vu son état, bah, il m'a fait l'honneur quand même d'être présent. Et il était très heureux de rencontrer des anciens copains, des anciens mécaniciens qui étaient là. Enfin voilà, c'était une fête vraiment de la moto en scène sur le site de la citadelle.
J'ai peut-être un regret, par exemple, deux jours plus tard, se disputer le Grand Prix de Belgique de Bastogne, et il n'y avait aucun pilote, enfin ancien pilote, je sais pas, je prends Sylvain Guébourg, Joël Robert, qui sont pas venus faire un petit tour à Namur. Tu les as pas contactés, non?
Si, si, ben, j'étais en contact avec Suzuki Belgique, là, mais hein, voilà, ça ne s'est pas fait, parce que malheureusement, un Grand Prix, Guébourg, il est quand même dans le team de Clément de Salles, donc je pense que c'est un peu compliqué. Et Joël Robert, je sais pas si tu sais, mais il est un petit peu caractériel.
Quoi. Ouais, non, si, donc, si, je le connais.
Joël, c'est en fonction de son caractère et de son humeur qui daigne venir ou pas venir, quoi. Mais c'est vrai que j'avais essayé, hein, bien évidemment, je l'avais contacté, mais je crois que Joël était en vacances, parce que, si tu veux, Joël s'occupait de la Chinelle avant, il a remis les affaires, l'organisation à quelqu'un d'autre maintenant, et alors pour ne plus trop embêter, il s'en va en vacances pendant cette période-là. Et il faut savoir que la Chinelle s'est tenue quelques jours avant le 15 août, donc le week-end précédent, donc lui il s'en va pour ne plus être embêté, quoi.
Ah, d'accord.
Et je pense qu'il est à l'étranger, et c'est pour ça qu'il n'est pas venu, sinon je pense qu'il serait venu, quoi, hein, parce que j'avais eu contact avec son secrétaire particulier, qui était présent d'ailleurs et qui roulait. Et puis voilà, quoi, donc c'est que partie remise, je pense, quoi.
Alors, édition 2014?
Ben, je pense que, tu vois, le problème, le seul regret, et je t'en avais déjà parlé, Guy, c'est le fait qu'on n'a pas pu aller dans le bois, quoi.
Voilà, en fait, voilà, voilà.
Sur l'Estanade, pour cette première édition. Je savais que c'était comme ça, quoi, pour être à la ligne, parce que les autorités pensaient comme ça. Mais disons que mon but, en ayant discuté avec plusieurs pilotes, que ce soit anglais, français, italien, tous ceux qui étaient là, hein, le seul regret pour eux, c'est de ne pas y aller non plus dans le bois. Et donc, je veux mettre tout en œuvre pour y arriver, pour la prochaine édition, et ce serait une condition sine qua non pour la refaire, quoi. Et donc, je pense que 2014, ça risque d'être un petit peu court, mais en tout cas, 2015, ça c'est sûr, quoi, à 100%, si on va dans le bois, bien évidemment, hein, parce que si si on n'a pas cette possibilité, je pense que ça ne peut pas tenir la route, quoi, tu vois. Il faut vraiment y arriver. Et je suis bien sur de bonnes pistes pour y arriver, quoi. Donc, j'ai beaucoup d'espoir, quoi. Et même, je suis assez optimiste, quoi.
Et c'est vrai que le circuit de la Citadelle sans le bois, ça perd beaucoup, parce que le circuit, il est visible qu'à 10% à peu près, hein, sur l'esplanade. Et puis, par exemple, à un départ de Grand Prix, on entend les motos dans le bois, et on attend arriver le premier pilote qui saute. Donc, à chaque fois, c'est toujours quelquefois un pilote différent, et ça donnait quand même un certain cachet à ce circuit que je rappelle, c'est le Monaco du motocross. Hein.
Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est sûr que faire l'ancien circuit, on n'y arrivera pas, ça c'est certain. Quitter l'esplanade et revenir par la montée qui est historique, quoi, le retour sur l'esplanade par cette montée historique,
ça possible.
On va peut-être y arriver, quoi.
Ah, d'accord.
C'est
ouais.
le but, quoi. En fait, tous les pilotes, ils m'ont dit, ils veulent pas trop, ils veulent juste quitter l'esplanade et remonter par cette montée sur l'esplanade, quoi. Donc c'est tout. Ils seront tout à fait satisfaits avec ça, quoi. Tu vois, ils savent très bien que le circuit dans la totalité, c'est irréalisable. Et voilà, écoute, on va faire en sorte que ce soit mieux, que ce soit encore mieux la prochaine fois, et que que les pilotes belges aussi se déplacent un peu plus, parce que ça, c'est un de mes regrets.
Oui, parce qu'il y avait plus de Français que de Belges.
Plus d'étrangers, en tout cas, que de Belges.
Oui, ouais, c'est vrai.
Et tu vois, tous ceux avec qui on a l'habitude de courir en Belgique, eh ben, ils ne sont pas venus, tu vois, ils ont fait la fine bouche, quoi, parce qu'ils ont été planades.
Ah, d'accord. Ben,
je trouve un peu dommage de leur part, quoi. Tu vois, ils n'y ont pas cru en l'événement, quoi, suffisamment, quoi. Mais peu importe, hein, c'est pas grave. Le belge et le francophone en particulier, parce que le néerlandophone bouge un petit peu plus, il y en avait quand même pas mal, mais le francophone est beaucoup plus difficile à faire bouger, quoi, en fait. C'est une de nos caractéristiques et wallon, quoi. C'est comme ça, quoi.
Un dernier mot aussi, il y avait la belle collection de Yves Campion, hein, qui collectionne les Saint-Orléans, les gilets d'Estal de cross. Hein,
Ouais. Ah ben, il a roulé avec une femme.
Oui, il a roulé, oui, en effet. Ouais. Hein.
Il a roulé une manche et puis une deuxième manche, son fils.
Son fils, oui, ouais, en effet, j'ai vu, ouais.
Voilà, ouais, non, c'est clair qu'il y avait de belles machines en exposition, hein, que ce soit les Gilera Saturno qui étaient là, les FN, je ne sais plus, il y avait une Douglas aussi, si j'ai bonne mémoire. Il y avait quelques Husqvarna magnifiques également. Donc, non, c'est moi vraiment satisfaisant. Hein. Et à refaire l'exposition, encore mieux, ça c'est certain. Et la bourse aussi qui a bien fonctionné.
Et la bourse, en fait. Oui, en effet. Oui.
Les boursiers étaient contents, en fait, du résultat. Pour une première, ils étaient vraiment tout à fait satisfaits. Ce qui a le moins bien marché, c'est le rallye qu'on avait organisé pour les motos de route, tu vois.
Ah bon.
Ça fait un peu moins bien fonctionner, parce que c'est des gens qui sont un peu plus compliqués, ils sont un peu plus pas une caste, hein, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait ça, mais mon pari, c'était de marier les deux, quoi, l'ancienne moto de route et l'ancienne moto de cross, donc hein, ça s'est jamais fait. Et là, j'ai un petit peu loupé, dans le sens où il faut vraiment leur proposer juste un roadbook, à mon avis, et être plus démocratique et les laisser un peu plus libres de leur de choisir leur timing, etc., quoi, au niveau de la journée. Et ça, on va aller plus dans cette direction pour les motos de route, quoi.
Ok. Eh bien, Thierry, on te remercie d'avoir répondu à nos questions, et puis on se reverra au prochain Namur Légende. Je te souhaite une bonne journée, Thierry.
Eh bien, merci beaucoup, Guy, et de toute façon, je t'informe de ce qu'on fait en 2014 ou pas. Quoi,
ok, on te remercie.
Allez, merci beaucoup.
Salut.
Au revoir. We'll be right back.
Bon Guy, l'info tout terrain pour l'instant, on la met un peu de côté parce que moi j'ai envie de te parler d'une 650 XS bien pourrie.
Oui.
Mais alors ouais. Vraiment bien bourri hein, et qui pourtant a fait un très bon temps là-bas aux USA sur cette fameuse course là qui s'appelle la Pax Peak hein, donc je rappelle ce que cette course mythique donc c'est 19,93 km avec 156 virages, un départ donné à 2865 mètres donc c'est presque du vol Mont Blanc presque hein. Voilà et puis et ça se termine 1440 mètres plus haut,
4350 mètres l'arrivée.
3, tu vois voilà. Donc bonjour Christophe.
Salut Michel.
Parce que voilà, tu es notre invité aujourd'hui. Donc cette course ça s'est déroulée au mois de juin, enfin le 30 juin, c'était
c'est ça.
Ça
la course elle-même le dimanche 30 juin et les essais la semaine
donc, qui passait. Donc on a eu l'occasion de te rencontrer au mois de mai pour tu nous as raconté un peu le projet hein.
Ouais.
Projet qui où l'idée a germé en décembre 2012 novembre même
ouais,
un peu avant hein.
Juin 2012.
Juin 2012.
Ouais, 2012.
Donc il fallait trouver la machine.
Tout à fait.
Hein, je sais pas si tu l'avais déjà ou tu avais une idée des peut-être.
Bah, j'avais comme d'habitude à chaque course américaine épluché un peu la réglementation.
Ouais, il faut toujours les
rules.
Ouais,
et je voulais rouler en vintage comme à chaque fois.
Ouais.
Et j'ai trouvé cette catégorie qui s'appelle catégorie vintage qui est réservée aux motos qui ont roulé en championnat américain de dirt track entre 70 et 74. Il y a 4 machines comme j'avais dit à l'époque qui sont autorisées, les Harley de Dirt, ça coûte ouais. une fortune, c'est introuvable chez nous, les Triumph de Dirt, même chose, les Norton et je sais plus quelle, et les 650 XS.
Voilà, donc t'as trouvé une 650 XS bien pourrie, parce que tu marques, c'est ton mail, hein, t'as raconté un peu ton voyage, hein, qui coulait d'une paisible retraite dans la Somme.
Ouais, on a trouvé ça sur un
plein de fientes de poule dessus, d'adrons, tout, t'as dit, il a fallu nettoyer et tout, passer au Karcher.
Enlever méthode. En fait, on l'a démonté complètement. On a mis à la poubelle tout ça parce qu'en fait, en la démontant, on a vu que l'avant c'était du Suzuki, l'arrière c'était un mélange
ouais, c'était
infâme.
C'était le bordel.
Un tas de boue. On a gardé le cadre qu'on a fait sabler et repeindre. Mais bon, juste un cadre pour faire une course moto, c'est pas le top. Quoi.
Il faut un petit peu de pièces à côté.
Et donc, on a commencé la quête,
voilà.
La quête aux pièces.
Donc, t'as trouvé la machine, il y a eu du boulot. Parce que on va passer un petit peu les détails là. Mais apparemment il y a eu des soirées de passé, même des journées, des dimanches complets
à essayer de
limer les têtes fourches ou ça parce que ça passait pas et vous avez voulu mettre une fourche de
voilà, en fait,
d'autres machines.
À un moment quand on a fallu faire ces choix techniques, ces options techniques, on va parler comme les mecs en Grand Prix, hein, les options techniques, je me suis rendu compte que où on partait sur remonter des éléments d'origine, mais c'est même pas la peine de se pointer à Pace Peak, c'est que des éléments d'origine. Donc les Américains m'ont confirmé par mail qu'on pouvait ce qu'ils appellent upgrader les éléments de sécurité, c'est-à-dire mettre des éléments plus modernes, fourche, suspension et frein. Mais ils te font une liste de ce qui est interdit. Ça peut être plus moderne, mais pas de magnésium, pas de titane, pas de carbone, pas de fourche inversée.
Ah bah t'es en catégorie vintage donc.
Voilà, donc ça, quand tu commences à faire le tour des pièces, le tour des casques pour trouver ce qu'il te faut, t'es quand même assez limité.
T'es limité.
Donc on est parti en plus sur une très mauvaise option. On a voulu monter un avant de Harley au niveau d'une fourche de Harley et des freins de R1. Donc adapte, tu imagines un petit peu le genre de truc vachement antinomique. Il y a eu un rejet, la greffe a pas marché. Quand on a fabriqué les pattes pour monter les freins de R1 au premier montage, ça a pété net la fourche. Là, à ce moment-là, on est en février.
Ouais.
Je me rappelle,
là, il y a le doute.
C'était
une autre soirée
mythique parce qu'on avait été exposé la moto à la cloute. Et le lendemain matin, on se rend compte qu'il faut repartir de zéro. Donc, on est mi-février et la moto doit partir en conteneur. Fin avril,
voilà, donc,
et on repart, de zéro.
Oui, c'est la course est le 30 juin, mais par contre, il faut envoyer la machine avant. Donc, voilà. En février, c'était pas bien ficelé encore l'histoire.
Ça commençait à être très limite.
Ouais, écoute, finalement, ça s'est bien passé parce que.
Alors, finalement, on a fini par monter la moto 2 jours avant qu'elle parte en conteneur. Donc, avec des séances d'essai exceptionnelles, on a roulé. On a dû faire 2 km d'essai dans le brouillard fin avril sur les petites routes belges parce que la moto est en configuration course, pas de phare, pas de machin et tout. Donc,
qu'en Belgique, on peut faire ça.
On va le faire en Belgique, tant qu'ils comprennent. On va le faire en Belgique. Mais ces petites routes paumées, elles étaient recouvertes de boue par les tracteurs, etc. Donc la moto était en plus dégueulasse, infecte. Le lendemain, Karcher complet et parti en caisse 3 jours après. Donc on ne savait pas comment elle marchait. parce qu'il y a une petite différence de hauteur entre le Mont Deka et Pice Peaks. Une légère différence.
Ah oui,
il y a
que
4300 mètres d'écart entre les deux.
Je vais faire le Mont Deka.
On s'est dit, elle marche au Mont Deka, mais elle va beaucoup.
Tu dis, on sent qu'il y aura la différence de carburation en haut du Mont Deka. Oui, mais Mont Deka, c'est pas 3800 mètres.
Donc on a mis la moto en caisse, elle est partie là-bas, et nous on est parti avec une boîte de gicleurs, avec 10 points en dessous et 10 points au-dessus, en disant, bon, bah, on trouvera bien là-bas les moyens de faire les réglages. Et puis on est parti comme ça.
Là, ça y est, on a mis la machine en caisse. Elle est partie pour les USA. On va faire une petite pause musicale. Okay. Et puis après, tu vas nous raconter comment ça se passe là-bas.
Après, on arrive dans le dur.
Ouais. Allez, on repart tout de suite là-bas aux USA avec Christophe Marquis. Donc, on a planté le décor, hein, un vieux 650 XS hein, que tu as trouvé là dans la Somme, que tu as un petit peu aménagé, on va dire. Hein,
moi, je le trouvais très beau.
Oui, c'est très beau. C'est là-bas, c'est qu'en contrôle technique qu'ils n'ont pas trouvé très beau, quoi, apparemment.
Quand on est sorti des contrôles pilotes, comme d'habitude, administratifs, etc., aucun problème. Et puis, sur le parking où il y avait les contrôles, j'ai vu sortir les machines de la catégorie vintage.
Aïe aïe.
Déjà, tu te dis, ils sont flambant neufs, peinture d'usine, paillettes, machin. Tu te dis, bon, c'est pas la même finition.
Et là, déjà, ta fille, déjà, on sort le water, faut absolument faire briller les crèmes.
Premier, donc je dis, on va tout de suite crever l'abcès. Je passe premier au contrôle, j'ai au moins été premier une fois là-bas. Je passe premier au contrôle technique, le mec, il la regarde, il fait, c'est quoi cette poubelle? Bah, je dis, voilà, ça fait 2 mois qu'elle est dans le conteneur, l'air marin et tout.
Oui.
Ouais,
dis, oui, bien sûr.
Et la roue, et le machin, et la peinture à la bombe, et les plaques faites dans des bouts de PVC, c'est quoi? Je dis, ouais, c'est catégorie vintage. Donc il dit, bon, il faudra la nettoyer, arrondir un peu les angles, bon, ça passe. Puis après, ils font l'inspection, on avait quand même fait attention, toutes les pièces qu'il fallait freiner étaient freinées, il y avait la...
Ouais, mais t'exagères quand même, il manquait une plaquette de frein dans un tri. Hein.
Mais, en fait, il manquait pas une plaquette, c'est simplement que si on avait voulu mettre les deux plaquettes, même de qualité, comme on a fabriqué des entretoises à l'arrache 3 jours avant de partir,
ça freinait tout le temps.
Quand il a vu l'état de l'étrier avant, il a dit, tu cours pas avec ça.
Ah, ouais.
Et, mais j'ai dit, moi, mais je suis français, j'ai fait, c'est un rêve de gosse, il y a 1 an et demi de boulot, qu'est-ce que je fais? J'ai investi, il dit, tu vas au marchand du coin et tu trouves une plaquette de frein. J'ai dit non, parce que c'est un étrier de Suzuki GS des années 80, un bras de machin, une plaquette de truc, un entretoise.
Tout est vintage.
J'ai dit tout est vintage. Je trouve, et si j'arrive à en trouver une par un grand miracle, elle rentrera pas de toute façon. Il y a
alors,
plus la place.
Alors.
Et alors, comme j'avais monté un beau mètre cylindre usiné de Harley, vraiment un truc de qualité, bon, ils se sont dit qu'avec le mètre cylindre de qualité et la Duritavia, logiquement, ça compenserait le... Puis je pense qu'ils ont été réglo, ils se sont dit, on va pas foutre tout en l'air, quoi. Ouais. Mais je pense qu'en catégorie moderne, avec un avion de chasse, il me laissait pas monter. Et après, donc, j'ai vu arriver les autres, et c'est là que j'ai compris que mon honnêteté n'a pas payé, parce qu'en fait, j'ai adapté le règlement comme on roule tous en France en moto ancienne, en vintage ensemble. C'est-à-dire que on met des pièces un peu, on met des pneus neufs, par exemple, on fait un peu gaffe au liquide de frein, mais on reste dans l'esprit. Et j'ai vu arriver les motos vintage. Alors cadre de Harley, par exemple, moteur.
Ah ouais,
extérieurement stock, mais alors à l'intérieur.
Détourne le règlement.
Mais alors par contre, des fourches qui sont pas inversées, mais des fourches usines, des petits freins, des freins à disque, comme on dit, pétales modernes, tous les éléments sont allégés, bras oscillants carrés, alors qu'il m'avait dit, bras oscillants carrés, c'est limite, eux avaient tous des bras carrés, avec des gros amortaux réglables, tandis que moi j'avais mes pompes à vélo, quoi, je veux dire, tu vois.
D'origine
pas d'origine, mais quasiment des trucs que tu mets sur les XS pour rouler sur la route.
Ah ouais,
ils avaient tous des pneus retaillés, des machins comme ça, donc à un moment, dis bon ça va, ça va, ça, bon après tu te dis allez ils te mettent l'autocollant dessus, mythique, approuvé, c'est bon.
Alors maintenant
le lendemain c'est la première séance d'essai libre, tout le monde monte, les bagnoles, les motos,
donc etc. là tu montes à 2800,
alors la première séance d'essai libre on l'a commencé par le haut donc tu arrives à 3820 mètres à peu près, 4h du matin, brouillard, le soleil se lève et tout le monde est là, il y a pas de chrono.
Ah, tu le fais en descente alors ?
Non, on le fait en montée, mais sans chrono, c'est pour découvrir.
Oui.
Et là, je me rends compte que poignée à fond, les mecs passent de tous les côtés.
Parce que c'est tout le monde en...
Là, c'est séance d'essai, est libre. Tout le monde
c'est libre, tout
ensemble.
Ouais.
Et j'entends des bruits, c'est des bruits, comme je dis, des espèces de bruits de cresserelles. En fait, il y a des motos électriques là-bas, et pour qu'on les entende passer, ils sont obligés d'avoir un petit klaxon.
Oh, bah tiens, bien sûr.
Parce que c'est la réglementation américaine, comme ça fait pas de bruit, même les motos électriques. Les petites motos électriques me passaient à l'intérieur des garages.
Un problème. Etc. Hein.
Donc on s'est dit, bon, on est. Voilà. Et ça a été comme ça pendant.
Tu as eu un doute ?
Là, j'ai eu un gros doute. Mais j'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est le premier jour, je suis pas bien réveillé. Ça sert à mieux demain aux séances qualif. Et ça a duré 3 jours comme ça.
Et puis donc, il y a 3 séances de qualif.
Alors là,
c'est ça ?
Le mardi, séance d'essai qualif sur le bas, je crois. Je suis largué.
T'es la ramasse totale.
Le mercredi ou le jeudi, séance qualif sur le milieu.
Là, d'accord. Et la troisième, tu te dis.
Et la troisième, je me dis au matin,
en me levant, faut que je me crache dans les pognes.
Si je suis pas qualif, je repars à la maison.
Je reprends le bateau ou l'avion. Et je suis pas venu pour pas participer.
Voilà.
Et tu te dis, tu te craches dans les pognes. Et là, tu lui fais sortir tous ses pistons.
Les pose-pieds sont biseautés, mes sliders sont biseautés, tout. Et à un moment, je suis même troisième temps de la séance.
Troisième temps. Alors là, t'en viens pas, malheureusement.
Et je me qualifie quand même. Parce qu'après, les Américains, rehausse le niveau et je me retrouve, je suis qualifié dernier de ma catégorie,
mais
en fait il fallait faire combien, 115% du temps, et je crois que je suis qualifié à quelques dixièmes.
Ça
quoi.
Passe.
Quelques dixièmes. Et arrivé en haut, le moteur, pouf, boum.
Alors, parle-moi un petit peu de cette petite photographe chinoise.
Alors, non, japonaise.
Japonaise.
Donc, japonaise. Je redescends.
Légère, 45 kilos à peu près, 40 kilos.
Je redescends en roue libre. Et à un moment, la moto reprend un peu de... Elle redémarre. Donc, je refais quelques mètres. Et là, pouf, elle s'arrête définitivement. Les marshals me mettent sur le bas-côté. Donc, il fait quand même. Il est 9h du matin. C'est la fin de la séance d'essai. 9h du matin, il commence à faire très, 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 très chaud. T'as ton cuir, t'as poussé ce bazar qui fait 180 kilos, tu te poses dans l'herbe. Et là, je vois arriver une photographe japonaise qui mitraille dans tous les sens. Pas moi, mais la moto.
Ah, la
moto.
Bah,
c'est,
tu t'es dit mince alors.
Et après, en discutant avec elle, elle était toute ravie parce qu'elle bosse pour une revue japonaise.
Oui.
Et là-bas, le XS, c'est un mythe là-bas.
Là, le mythe.
Ils sont fous des 650 XS. Et elle était contente de faire des photos pour les passer dans sa revue au Japon.
Toute qualifiée.
Et moi, je lui dis,
mais moi,
elle est cassée. J'étais fou de rage. Et elle prenait une photo, elle était contente. Elle me dit, mets-toi à côté, fais la pose et tout.
Ah ouais, t'as quand même posé.
Mais j'étais fou. Quoi, je veux dire, je lui dis, mais moi, ma journée est finie. Quoi.
Ah, tu vas passer dans le magazine.
Elle est contente parce que la seule moto qui casse devant elle, c'est la 650 XS.
Donc voilà.
La qualif est faite. Après, je me dis, voilà, le lendemain, c'est plus que du bonheur. Quoi, même si on s'en foutra quelque part, on s'en fout du résultat. Le lendemain, c'était pareil. On est arrivé. On finit ou tu remets?
Bah écoute, je regarde l'heure parce que je sais que je voudrais pas qu'on parle de la course quand même.
On fait une pause.
Ouais.
On fait une petite pause quand je suis lancé, tu sais.
Musicale, et après tu nous parles de la course.
On parle de la
et
course.
Après on finira là parce qu'il sera à midi.
And Chevrolets, but I'll be good to you. Hey! I said, hey, pretty thing, I guess you heard I rode a Mustang 429. Running from the law in Kansas City, car wasn't mine. I know I'm rough around the edges, I don't do it every time. Well, honey, you got to do got to jump, get any man you want. Well, I'm an Okie on the road, kind of like Tom Joe, and an asshole at 402. I'm bad on Fords and Chevrolets, but I'll be good to you. Chevrolets, but I'll be good to you. I'll be good. Yes, I will. 'Cause I'm mad on Ford and Chevrolets. Yeah, I'm mad on Ford and Chevrolets. Well, I'm mad on Ford and Chevrolets. Woo! I'm
Bon, Christophe, il y a Christine qui est dans le studio et qui voudrait le faire l'année prochaine avec son 125 Varadero. Est-ce que tu penses qu'une catégorie 125, ce serait...
Enlève le moteur et mets un moulin à café, tu passeras en électrique.
T'étais prête là.
Ah oui, je suis prête là. Non, mais je pars avec toi en 2016. Hein, d'accord.
En 2016, ah, 2016, bah, tu pars avec Christophe. Bon, d'accord.
Je me prépare quand même.
Ouais, mais bien sûr, faut que tu passes ton permis et puis après, on va voir. Bon, alors l'essentiel est fait.
Ouais,
Christophe.
On est
alors,
au départ.
La machine est là-bas, toi t'es là-bas, t'as passé tes qualifs. Voilà. Maintenant,
dimanche matin.
Jour de la course. Ouais.
Alors dimanche matin, dimanche 30 juin.
Alors, il faut expliquer qu'il y a plusieurs catégories. Hein. Il y a une quinzaine de catégories. Oh, hein. Il y a des voitures aussi.
D'abord les motos, ensuite les voitures. Bon, bien sûr l'attraction. Donc on est arrivé comme d'habitude de très bonne heure le matin puisque on est toujours là vers 2h30 du matin pour installer les parcs, etc. L'attraction, c'est Monsieur Sébastien Loeb qui attire tout le monde autour de lui, bien sûr.
Bon, mais c'est lui qui a gagné en plus.
Mais bon, après, donc il faut partir les motos, donc dans l'ordre du les foules en premier, les supermotards, ouais, etc.
Et nous,
vintage en dernier. Donc comme moi j'étais qualifié dernier, enfin 8e ou 9e.
Dernier des derniers.
Donc t'as une putain de pression en plus. Donc t'es en cuir depuis 6h du matin.
Température là-bas.
Ah, ce jour-là,
là, t'es à 2800 mètres. Hein.
Ouais, mais le jour de la course, il faisait franchement super.
On a vu les photos, il fait beau.
Par contre, on est arrivé en haut sous la neige fondue.
Ah ouais.
Voilà. Donc,
quand même.
Et donc, c'est une tension, mais ça n'a rien à voir avec Bonneville, avec les courses qu'on connaît, parce que t'es tout seul, t'as une foule énorme, t'as les Américains, t'as les chronos qui tombent, t'as la vidéo, t'as l'hélico qui va au-dessus. Enfin,
c'est l'Amérique, quoi.
C'est le rêve, c'est un de tes rêves, mais au moment où tu y es, c'est
une question, c'est vrai, il n'y a pas de rembarque.
Et il n'y a pas de rail de sécurité.
La route, il n'y a pas de sécurité.
Donc
tu te loupes, tu vas vraiment, tu descends.
On roule quasiment. Moi, j'ai jamais donné un coup d'œil à droite, quoi. Parce que tu sais bien qu'en moto, tu vas où ton regard.
Donc 156 virages, donc sur, 10, ouais. sur 19 ouais. 20 alors, km presque.
Nouvelle connerie, je me suis dit, j'ai voulu tenter. La veille, on a fait le plein du réservoir avec de l'essence de haut de gamme, de l'essence aviation pour essayer de gagner.
Pour
gagner quoi, peut-être pas, bon, pour gagner. Et donc, elle marche encore moins bien. Ouais. Donc, première partie de course, le premier tiers. J'ai bien roulé, j'étais correct. Et j'ai vu une vintage cassée sur le bas-côté. Je dis, bon, voilà, je ne serai pas dernier.
Voilà.
Et puis la montée, par contre, poignée de gaz à fond.
Rien du tout.
Donc je fais 5e sur 8, ouais, parce qu'il y a une casse et puis deux mecs qui ont été hors classement. Mais c'est fait. Ce qui est génial, c'est que tout le monde a monté. Les Américains t'applaudissent parce que ils voient bien que tu rames et que t'es. Et alors, ce qui est exceptionnel,
c'est le problème de l'atmosphère. Hein.
La carburation.
C'est déjà fini, Laurent. Attends, pas générique quand même. On a encore plein de choses à dire avec Christophe.
Alors, la descente est fabuleuse parce que.
Alors la descente, allez.
La descente.
Il y aura 2 minutes.
On descend tous. Moto. Moi j'avais l'ob à 20 mètres devant moi. Et tu descends à l'arrêt. Il est 40 000 personnes.
Ah, tout le monde descend en même temps.
C'est exceptionnel.
Ah ouais,
c'est exceptionnel. Et oublie pas que tu as une phrase à dire.
Oui, attends, non, mais je me la réserve.
Donc la descente, c'est un moment de folie.
De folie. Ouais. Donc, en fait, il faut y aller pour la descente.
Non, mais je veux dire, c'est gigantesque. C'est gigantesque.
Bon, voilà. Donc, écoute, on va devoir quitter. On va arrêter là. C'est dommage parce qu'on était bien partis. Je vais citer un petit peu la fin de ton mail là. Donc si pour ceux qui ont peur de tout et qui vont si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Bien joué.
Ça sera écrit sur le réservoir en 2016. Ça.
Très bien. On essaiera de se revoir cet hiver, reparler un peu de ça.
Quand le projet avancera.
Voilà. Merci Guy pour toutes ces infos moto tout terrain.
Tout terrain. Alors le mois prochain.
Le mois prochain, oui.
Moi, je suis troublé.
Et Christian n'a pas eu le temps de donner ces infos club, mais dimanche prochain,
on aura un peu plus.
On n'est pas en forme. C'est plutôt sous la couette. Ouais. Merci Laurent pour cette programmation musicale.
Et à la semaine prochaine.
Et passez un bon dimanche. À dimanche prochain.
Bye bye.